Vous écoutez la synthèse du troisième séminaire de la communauté mixte de recherche DIMA. DIMA, une communauté mixte de recherche consacrée au lien entre déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer. Synthèse du séminaire du mardi 20 juin 2023. Notre séance a porté sur les partenariats et l'accompagnement des personnes ayant une déficience intellectuelle atteinte de la maladie d'Alzheimer. Les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et atteinte de la maladie d'Alzheimer se trouvent à l'intersection de plusieurs domaines d'intervention. Le handicap, la gérontologie, c'est la discipline qui s'occupe des personnes vieillissantes, le médico-social, ce sont les professionnels qui accompagnent les personnes, le sanitaire, ce sont les professionnels qui travaillent dans le domaine de la santé. Mais les professionnels de ces différents domaines ne se connaissent pas toujours. Certains sont spécialistes du handicap, mais ne connaissent pas la maladie d'Alzheimer. D'autres sont spécialistes de la maladie d'Alzheimer, mais ne connaissent pas le handicap. Ces professionnels doivent donc développer des partenariats pour apprendre à se connaître et travailler ensemble. Ils doivent apprendre à collaborer. La communauté DIMA propose, chaque année, un stage à des étudiants de Master 2 inscrits en sociologie à l'Université de Lille. Les étudiants explorent une question que la communauté DIMA a repérée. Cette année, trois étudiants ont effectué un stage sur le développement des partenariats entre le champ du handicap et celui de la vieillesse. Les résultats de leur travail ont été présentés dans notre séminaire du 20 juin, après un premier temps consacré à l'actualité de DIMA. Nous commencerons par l'actualité de DIMA. Le site internet a été lancé en avril 2023. Il est disponible sur le lien suivant. https://www.social-project.fr/DIMA. Une lettre d'information existe aussi. Elle a été diffusée. La lettre d'information annonce les nouveautés sur le site. Il existe aussi un podcast que nous sommes en train de réaliser. Le podcast comprendra plusieurs épisodes. Un podcast est comme une série sur un thème avec plusieurs épisodes. Blandine Lacour, journaliste, et Maxime Huyg, réalisateur, sont en train de créer le podcast. L'objectif du podcast est de toucher le grand public et les familles. Le premier épisode du podcast parle de la situation des personnes avec déficience intellectuelle qui sont malades d'Alzheimer. Le premier épisode présente aussi DIMA, notre communauté mixte de recherche. Le premier podcast sera diffusé le 21 septembre 2023 pour la Journée mondiale Alzheimer. Sur les réseaux sociaux, nous souhaitons créer une page sur deux réseaux sociaux. Une page pour le projet sur Facebook, une page pour le projet sur LinkedIn. Nous avons aussi présenté le projet réaliser des communications dans des colloques et des formations. Un colloque est un endroit où des personnes viennent parler ensemble d'une question qu'ils partagent. Plusieurs communications ont ainsi été ou vont bientôt être faites sur DIMA, dans des colloques ou des journées de formation. Tous les membres de la communauté peuvent faire des interventions à propos de DIMA. Ils peuvent faire connaître notre communauté là où ils le souhaitent. Nous avons développé des relations à l'international. La synthèse du premier séminaire de DIMA a été traduite en anglais. Elle a été envoyée à Alzheimer Europe. Alzheimer Europe est une organisation non gouvernementale. C'est comme une association qui serait internationale au niveau de l'Europe. Un mail a aussi été envoyé à Karen Watchman, pilote du projet Le Journal de Jenny en Écosse. Karen travaille en Écosse, donc. Le mail a été envoyé pour lui faire connaître notre travail et savoir si elle a mené d'autres travaux sur la même question. Enfin, une réunion est organisée bientôt en visioconférence avec PART21, une association suisse spécialisée sur la trisomie 21. Enfin, les prochaines grandes dates de notre communauté sont les suivantes. Le 21 septembre 2023 aura lieu la journée mondiale Alzheimer. Ce sera l'occasion de communiquer sur Dima. Nous lancerons le premier épisode du podcast. Nous allons aussi diffuser un communiqué de presse. À la fin 2023 ou au début de l'année 2024, nous communiquerons sur les enjeux autour du diagnostic. Après ces grands points, dans notre réunion, nous avons discuté de l'avancement des groupes de travail. Le premier groupe est le groupe diagnostic et sensibilisation des professionnels de santé. Ce groupe a lancé une enquête sur le repérage des troubles et sur le diagnostic de maladie d'Alzheimer pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Les résultats de l'enquête seront présentés au prochain séminaire. Le deuxième groupe est le groupe frein à un accompagnement global des personnes avec déficience intellectuelle malades d'Alzheimer. Ce groupe devait au départ travailler sur les freins réglementaires. Ce sont les freins qui sont liés à la loi. Le groupe a décidé d'élargir son travail, car il y a beaucoup de freins à l'accompagnement global, et tous les freins ne sont pas réglementaires. Le groupe a d'abord travaillé sur les freins qui sont liés aux aides sociales. Puis le groupe a travaillé sur les freins qui sont liés aux cultures professionnelles, à la manière dont différents professionnels dans différents milieux et différents domaines partagent des choses en commun, mais simplement dans leur milieu professionnel. Ils n'ont pas toujours les mêmes habitudes selon les milieux et selon les professions. C'est cela que l'on appelle les cultures professionnelles. Le troisième groupe, état des lieux des pratiques professionnelles, des connaissances acquises et des besoins de connaissances, de compétences et de soutien des professionnels, a commencé par travailler sur l'offre de formation dans les écoles de travail social. Cela veut dire ce que l'on apprend lorsque l'on fait une école de travail social. Ce groupe veut aussi repérer des structures et des dispositifs qui accompagnent des personnes vivant des situations de handicap et qui sont atteintes par la maladie d'Alzheimer. Enfin, ce groupe veut faire un travail avec un photographe professionnel qui réaliserait un travail photographique en lien avec ce que le groupe travaille. Le groupe « Expérience et besoins des familles », le quatrième groupe, a commencé à recueillir l'expérience de familles dont l'un des membres qui vit une situation de handicap a développé une maladie d'Alzheimer. Pour l'instant, il n'y a que 3 familles qui participent au groupe. C'est difficile de trouver des familles pour participer. À partir de 2024, le groupe va commencer à voir des dispositifs, des manières de travailler, telles que les plateformes de répit ou les maisons des aidants. Le groupe voudrait savoir en quoi ces dispositifs peuvent ou non répondre aux besoins des familles. Enfin, le cinquième groupe de travail, expérience et besoins des personnes en situation de handicap, a commencé à parler de personnes que les membres du groupe connaissaient et qui ont eu la maladie d'Alzheimer. Le groupe a également regardé le journal de Jenny et il a discuté pour savoir comment aider les personnes qui vivent des situations de handicap. Le groupe fait une réunion avant et après chaque séminaire. Dans la réunion avant chaque séminaire, le groupe aide les personnes qui vont parler au moment du séminaire à se préparer. Le groupe les aide à ce que ce qu'elles disent soit facile à comprendre. Après chaque séminaire, le même groupe fait le bilan du séminaire pour savoir ce qui a bien fonctionné, ce qui a bien été ou ce qui devrait être changé. Des fiches pratiques sont prévues dans le projet DIMA. Camille Lombard et Ursula Menge Topio, toutes deux membres du laboratoire Psytech de l'Université de Lille, devaient faire une revue de la littérature internationale sur le dépistage et le diagnostic de démence chez les personnes ayant une déficience intellectuelle. Cela veut dire lire tous les articles qui ont été publiés, des articles scientifiques, sur la question du dépistage et du diagnostic. Puis, écrire un résumé qui soit accessible. Camille et Ursula ont réalisé que ce type de travail existe déjà. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour notre communauté. Elles ont changé leur projet. Elles vont préparer 4 fiches accessibles aux professionnels et aux familles sur différents thèmes. Le dépistage et le diagnostic chez les personnes ayant une déficience intellectuelle et une maladie d'Alzheimer. L'accompagnement des personnes qui ont une déficience intellectuelle et une démence. Les interventions adaptées pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle et une démence. Et enfin la 4e fiche qui portera sur l'approche éthique dans l'accompagnement des personnes qui ont une déficience intellectuelle et une démence. Le 2e grand temps de notre séminaire a porté sur le développement des partenariats entre les domaines du handicap et de la vieillesse. Notre communauté d'IMA a demandé à 3 étudiants, Eléa Blervac, Nissab Gabagi et Elwen Guerrero-Moyon, de faire un travail sur les enjeux du développement des partenariats entre les champs du handicap et de la vieillesse. Cela veut dire qu'est-ce qu'il est important de prendre en compte quand des personnes ou des organisations qui travaillent dans le domaine du handicap ou de la vieillesse veulent travailler ensemble. Les résultats du travail de ces 3 étudiants sont présentés au moment du séminaire et ont été discutés. Les personnes avec déficience intellectuelle atteintes de la maladie d'Alzheimer peuvent avoir besoin de professionnels qui travaillent dans des secteurs différents et qui ne se connaissent pas. Du moins, ils ne se connaissent pas toujours. Il y a différentes choses qui peuvent empêcher ces professionnels de travailler ensemble. Tout d'abord, il n'y a pas assez de professionnels sur le terrain. De plus, les professionnels sont amenés de plus en plus à faire du travail administratif, ce qui leur prend trop de temps. Il n'y a pas assez de postes d'assistants de service social pour faire ce travail administratif. Les professionnels peuvent également avoir du mal à trouver du sens dans leur travail. Ils ne savent pas comment accompagner des personnes en situation de handicap qui vieillissent et qui développent des maladies neuro-évolutives, des démences par exemple, car ces professionnels n'ont pas été formés pour cela. Il faut donc développer la formation des professionnels. Ensuite, il y a une difficulté liée au diagnostic. Peu de personnes en situation de handicap ont un diagnostic médical de maladie d'Alzheimer, car ce diagnostic est difficile à établir. Ça demande beaucoup de temps. Les professionnels doivent aussi apprendre à repérer les signes de la maladie. À Colmar, le Centre départemental de repos et de soins a mis en place différentes possibilités pour réaliser les diagnostics. Les personnes peuvent venir en consultation, elles peuvent venir en hospitalisation, où elles peuvent venir en accueil temporaire. Les personnes sont toutes différentes, il faut donc avoir différentes solutions à leur proposer. Pour cela, il faut la volonté des professionnels, mais aussi que les équipes de direction s'impliquent, que les équipes de direction soient d'accord. Il faut qu'elles acceptent de faire des pas de côté. Cela veut dire être souple, cela veut dire accepter d'inventer des conditions d'accueil adaptées pour les personnes. Le diagnostic est très important. En effet, il faut pouvoir anticiper les difficultés, se préparer aux difficultés, pour éviter des situations d'urgence. Par exemple, une situation d'urgence, c'est quand le maintien de la personne sur son lieu de vie devient impossible et qu'elle doit déménager sans avoir eu le temps de s'y préparer. La question des changements de lieu de vie pose souvent de gros problèmes. Parfois, les professionnels veulent que la personne continue à vivre dans son foyer, mais le foyer n'est plus adapté à ses besoins. Quel que soit l'endroit où les personnes vont vivre, il est essentiel d'anticiper les changements, de préparer les changements. Il est important que les personnes puissent aller faire des activités et des animations dans d'autres établissements, qu'elles puissent parler aux personnes qui habitent déjà dans ces nouveaux établissements. Il est important qu'elles puissent aller passer quelques jours dans ces nouveaux établissements pour les essayer et voir si cela leur convient. Le développement des partenariats, des collaborations, peut aussi parfois demander trop de temps aux professionnels. Il y a trop de réunions. Il peut aussi y avoir, encore une fois, trop de travail administratif. Les différentes équipes doivent écrire une convention, un document qui dit comment elles se mettent d'accord pour ce qu'elles vont faire ensemble. Les différentes équipes doivent aussi rendre compte de ce qu'elles font à leurs financeurs, expliquer aux personnes et aux instituts qui apportent l'argent pour leur travail, ce qu'elles font comme travail et comment l'argent est utilisé. Tout cela peut prendre beaucoup de temps. Les professionnels ne peuvent pas consacrer plus de temps à leurs partenaires qu'aux personnes qu'ils accompagnent. C'est donc important dans les partenariats qu'il y ait une personne qui coordonne tout cela, une personne qui a le temps pour faire tout ce qu'il faut pour que la collaboration se passe bien. Dans le séminaire, nous avons discuté l'idée qu'il y a comme une injonction au partenariat. Cela veut dire on insiste beaucoup auprès des professionnels pour qu'ils créent des collaborations, pour qu'ils fassent des conventions. En effet, c'est plus facile d'obtenir un financement quand on le demande à plusieurs, par exemple dans des appels à projets. Il existe aussi de nombreux partenariats qui fonctionnent très bien sans convention. Les professionnels se font signe, ils s'interpellent, ils se contactent en fonction de leurs besoins. Une autre difficulté vient des cultures professionnelles dont nous avons parlé tout à l'heure. En fonction du domaine dans lequel les professionnels travaillent, ils ont des façons de faire, des vocabulaires, des mots, des sigles qui leur sont propres, particuliers, et ils ne connaissent pas forcément les cultures professionnelles de leurs autres partenaires, d'autres professionnels. Cela peut faire obstacle à la communication et à la collaboration. Certaines formations peuvent aider les professionnels à se connaître quand elles sont organisées en immersion. Par exemple, un éducateur de foyer va travailler quelques jours dans un EHPAD et une infirmière d'EHPAD, elle, va travailler quelques jours dans le foyer. Cela permet d'apprendre à se connaître en travaillant là où les autres travaillent aussi. Les professionnels ont besoin de temps pour discuter, réfléchir sur leurs pratiques, leur manière de travailler ensemble, ou leur manière de travailler séparément. Ils ont besoin de temps pour découvrir les autres cultures professionnelles, pour apprendre à travailler ensemble. Ce temps-là doit être reconnu. Sur certains territoires, dans certaines régions, certains départements, ou à des échelles plus petites, les professionnels organisent ce que l'on appelle des cafés-débats. Les professionnels se réunissent, entre professionnels de différents domaines, le format est très convivial et ils échangent autour d'un sujet particulier. Ils discutent ensemble sur un sujet précis. Enfin, il y a également des freins qui sont liés à la réglementation. Par exemple, certaines structures, certains établissements ou certains services ne sont pas accessibles avant d'avoir l'âge de 60 ans. Et donc, des personnes en situation de handicap atteintes de la maladie d'Alzheimer qui peuvent avoir besoin d'aller dans ces établissements ou d'utiliser ces services ne peuvent pas avant d'avoir 60 ans. Les réglementations sont très difficiles à comprendre. Elles ne sont pas non plus les mêmes en fonction des départements, par exemple entre le Nord et le Pas-de-Calais. Même les professionnels ont du mal à s'y retrouver. Les partenariats sont importants pour l'accompagnement des personnes. Les équipes doivent collaborer pour accompagner les personnes dans l'évolution de leur parcours. Mais cela peut représenter beaucoup de travail pour les équipes que de prendre du temps pour apprendre à collaborer. En plus, une partie de ce travail est invisible, elle n'est pas reconnue. Répondre à des appels à projets, répondre à des appels tout court, des coups de fil, des invitations, prendre le temps d'un conseil, prendre le temps d'une visite, etc. Toutes ces choses sont souvent faites par des personnes qui sont très motivées. Elles le font car elles veulent le faire, elles savent que c'est important. Elles savent que les partenariats doivent être entretenus, qu'il faut prendre soin de ses partenaires, qu'il faut s'entendre souvent et bien s'entendre. Mais ce travail devrait être reconnu et ce travail devrait être soutenu. Il ne peut pas reposer uniquement sur de bonnes volontés. Actuellement, on ne sait pas encore prévenir, préparer et anticiper la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui est liée à une évolution pathologique du cerveau. Pour l'instant, on n'a pas de traitement efficace pour soigner ou pour prévenir cette maladie, pour l'empêcher d'apparaître chez les personnes chez lesquelles elle apparaîtra. On a seulement des pistes de traitement. C'est donc le grand défi du XXIe siècle. Mieux comprendre le cerveau et le vieillissement du cerveau. Le diagnostic sera le sujet de notre prochain séminaire.